Débat et controverse sur BFM Business. Emmanuel Lechypre accueille les experts.
Bienvenue dans les experts avec au menu du jour. Est-ce qu'on peut parler d'événements historiques? En tout cas, un événement qui ne s'est pas produit depuis 11 ans, une augmentation des taux d'intérêt de la BCE. Alors, est-ce que ça change la face de la conjoncture? Est-ce que ça change la face de l'Europe? Pourquoi faire cette hausse des taux? Et puis, voilà, est-ce que c'est le moment opportun, le moment où on parle de risque de récession, mais pas seulement de récession. Nous aborderons le thème aussi aujourd'hui de la fragmentation de l'économie mondiale, fragmentation de la zone euro aussi, et puis on s'attardera forcément sur l'avenir de l'Italie, maillon faible de la zone euro, et puis on reviendra évidemment, puisque c'est le feuilleton de la semaine, sur la loi pouvoir d'achat et la politique des chèques. Nos trois experts du jour, Jean-Pierre Petit, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Président des Cahiers Verts de l'économie, Christian Parizeau. Bonjour Christian.
Bonjour.
Christian, vous êtes le fondateur d'Altair Économique, vous êtes économiste indépendant maintenant, mais vous conseillez toujours. Aurel BGC, pour lesquels vous avez travaillé très longtemps, et puis Christian Saint-Etienne. Bonjour Christian.
Bonjour.
Christian, professeur au CNAM, membre du Cercle des économistes, puisque comme tous les jeudis, le cercle des économistes, est représenté aux experts. On commence quand même, messieurs, avec cette hausse des taux de la BCE. Alors, est-ce que ce sera 0,25, 0,50? Est-ce que c'est important ou pas? Jean-Pierre Petit, est-ce que nous entrons dans une nouvelle ère aujourd'hui ou pas?
Non, je ne pense pas, non. Non, une nouvelle ère, à quel point de vue?
C'est pas mal, quand on remonte les taux pour la première fois.
Mais les taux directeurs.
Depuis 11 ans, oui.
Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, je critique pas trop la BCE parce que j'entends beaucoup de critiques autour de moi. Enfin, après, sur l'ampleur du resserrement qui est pricé dans les marchés,
mais c'est-à-dire qu'on comprend, on comprend surtout pas trop à quoi ça va servir, quoi.
Alors, c'est justement là, moi, en tant qu'ancien banque centrale, je tiens à dire deux choses. Autant j'ai toujours approuvé les politiques monétaires d'expansion des 12-13 dernières années, mais là il y a quand même un point sur lequel la BCE doit réagir. On me dit c'est un choc d'offre, donc la banque centrale ne peut rien, donc ça sert à rien, voilà. C'était l'argument de Arthur Burns, le patron de la Fed dans les années 70, quand un certain nombre de parlementaires du Congrès le critiquaient parce qu'il disait mais pourquoi tu relèves tes taux, et qui critiquait qui n'allait pas assez fort, il disait mais j'y peux rien, c'est un choc d'offre, c'est une décision des pays de l'OPEP qui ont mis en place un embargo, j'y peux rien, donc je ne peux pas resserrer trop fort. Pourquoi la banque centrale doit quand même resserrer là aujourd'hui? Elle doit resserrer pour deux raisons. D'abord pour ancrer les anticipations de moyen et long terme, puisque on sait tous ici que l'inflation est un phénomène autoréalisant par les anticipations de moyen terme des agents économiques.
Bah là, Jean-Pierre, si on regarde les anticipations à 5 ans, on est à 2%.
Oui.
C'est exactement la cible BCE. Hein.
Bien sûr. Et c'est pour ça que c'est bien. Ça veut dire qu'aux États-Unis, quand tu regardes l'Université du Michigan, c'est probablement la plus fiable, en tout cas, c'est celle que regarde la Fed, t'es sur du 3, ce qui est un peu élevé, mais ce qui reste quand même par rapport au niveau d'inflation à 9, beaucoup plus faible. Donc, mais ça, c'est le job de la Banque Centrale. Parce que dans les années 70, on le sait très bien, les anticipations se sont envolées. Alors, évidemment, les anticipations des salariés par les mécanismes d'indexation, qui étaient assez élevés aussi aux États-Unis, pas seulement en Europe. Et puis la deuxième chose, c'est quand on dit il y a un choc d'offre, oui, mais bon, alors l'offre diminue, l'offre de matières premières, de semi-conducteurs, etc. Bah oui, donc pour un niveau de demande donné, l'offre diminue, bon, bah ça veut bien dire qu'il y a un déséquilibre. On est bien d'accord. Donc l'argumentaire des banques centrales n'est pas illégitime. Là où j'ai une question, c'est que sur ce qui est pricé par les marchés, tant aux États-Unis, et d'ailleurs ça commence à baisser assez nettement aux États-Unis, hein, le taux terminal, taux directeur terminal en 2023 a déjà commencé à baisser, et le taux terminal de la BCE est à mon avis trop élevé. Elle ira moins loin que ce que pensent les marchés, et c'est la raison pour laquelle je pense que la courbe des taux, ce qui est très important aussi, va s'aplatir considérablement en Europe, au point même peut-être même de s'inverser, et moi je prends le pari que les taux longs, dans les prochains mois, le Bund, l'OAT, etc., vont baisser et non pas monter comme on a tendance souvent à penser quand la banque centrale relève ses taux directeurs. Parce que tu as pas, n'oublie pas que tu as parlé des taux directeurs.
Oui, oui, absolument.
Pas tous les taux alors, d'intérêt.
On va déjà
pour
faire.
Ceux qui nous écoutent, par exemple, ceux qui anticipent les crédits immobiliers, les taux des crédits immobiliers sont indexés sur les taux longs.
Justement, le paradoxe, c'est que la hausse des taux courts peut peut-être faire baisser les taux des crédits immobiliers.
Mais exactement.
Si vous ancrez des anticipations
Bonne remarque.
On va, avant d'attaquer le sujet qui me paraît le plus sensible, qui est ce sujet de la fragmentation, éventuellement, on va continuer le petit tour de table sur l'opportunité de cette hausse des taux. Christian Parizeau, choc d'offres, d'accord, donc choc énergétique, pourquoi monter les taux? On nous parle déjà quasiment de récession, donc on se dit à quoi ça sert de remonter les taux quand on rentre dans la période finalement de ralentissement du cycle. Les conditions de crédit, elles se sont déjà resserrées. Comment vous la justifiez, vous, cette hausse?
Moi, je la justifie parce que c'est pour moi un assouplissement des conditions monétaires, ce qu'ils vont faire. C'est paradoxal, mais on est sur des taux négatifs. Et ils ne veulent pas l'avouer officiellement, mais pour moi, les taux négatifs sont une erreur de politique monétaire parce que ces taux négatifs pèsent sur la rentabilité du secteur bancaire. Aujourd'hui, les banques, tous les jours, vont déposer de l'argent qu'ils ont en excès, ils ont trop de liquidités, le déposent auprès de la BCE, ça leur coûte de l'argent. Et donc, pour moi, aujourd'hui, sortir des taux négatifs, c'est une priorité. Après, on verra, pour remonter les taux au-delà du 0%, si on durcit vraiment la politique monétaire, mais à très court terme, revenir à des taux directeurs à zéro, pour moi, c'est plutôt un élément pour aider le secteur bancaire, c'est plutôt bienvenu. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on n'a qu'à voir la réaction des marchés. La réaction des marchés, c'est... Lorsqu'on a commencé à spéculer sur les marchés sur le fait qu'on avait monté de 50 points de base au lieu de 25, tout de suite le secteur bancaire est monté en bourse. Ça montre bien que tout le monde a intégré le fait que c'est négatif pour les banques.
Si on regarde le rapport de la Banque Centrale Européenne, le durcissement des conditions du crédit sur le premier trimestre, il est déjà finalement...
Il est déjà en cours.
En cours.
Il est déjà en cours et surtout ce que montre cette enquête qui a été réalisée auprès des banques, c'est que les banques, le durcissent parce qu'elles anticipent une dégradation de l'économie. Donc ça montre bien qu'on n'est pas du tout dans l'idée qu'on va pouvoir avoir une croissance durable et on est plutôt sur des scénarios de récession. Et puis d'autre part, ce que montre aussi, on en reparlera, mais c'est qu'il y a des énormes différences entre les pays. On voit que le durcissement aujourd'hui des conditions de crédit est plus forte en Allemagne, en Italie qu'en France ou en Espagne. Donc on voit qu'il y a aussi l'intégration auprès des banques dans leur facteur risque, le fait que la zone euro finalement est touchée de manière très asymétrique entre les pays, qu'il n'y a pas un choc qui est vraiment identique au sein des pays, et ça complexifie le travail pour la BCE.
Et ça, on va y revenir parce qu'effectivement c'est sans doute le principal défi. Christian Saint-Etienne, sur cette hausse des taux, comment vous la percevez?
Bon, mes camarades ont déjà évoqué plusieurs arguments qui laissent penser que ce n'est pas grave. On peut avoir un refi, c'est-à-dire le taux de refinancement qui remonte à 1%, deux étapes, ça ne pose pas de problème. Le point clé, c'est l'impact sur la courbe des taux. Effectivement, on ne peut pas exclure que, d'abord, on aura certainement un aplatissement de la courbe des taux. L'inversion, c'est peut-être pour un peu plus tard, mais ça dépendra aussi de la situation économique globale. Mais je crois que il faut replacer la politique monétaire dans la politique stratégique de moyen terme. Ce dont on a le plus besoin en Europe, et en France en particulier, c'est une articulation entre court terme et long terme. Qu'on remonte les taux, mais qu'on redonne dans le même temps une vision sur la politique énergétique. Il n'y a plus de politique énergétique cohérente en Europe depuis 20 ans. De même qu'on soit capable d'évoquer une capacité de réindustrialisation et de relèvement des capacités de défense sur le moyen terme. Dans ce contexte-là, si on avait une politique énergétique, une politique de défense, une politique de souveraineté agroalimentaire pour l'Europe qui soit cohérente à 15 ans, la hausse des taux ne pose pas de problème parce que les entreprises sont en mesure de continuer d'investir ou d'accélérer même les investissements sur la base de plans stratégiques cohérents. Ce qui manque...
Vous dites qu'il nous faudrait une visibilité globale, en fait.
Oui, ce qui manque actuellement en Europe pour les grands acteurs économiques que sont les entreprises et les ménages qui veulent investir dans l'immobilier, c'est une vision cohérente de l'avenir sur la croissance durable. Bon, par exemple, sur la politique énergétique, on parle de progression vers une croissance durable. Si vous faites des scénarios sur le moyen terme en France, une croissance durable, c'est un doublement de la du potentiel de production électrique, ce dont personne ne parle. Les scénarios honteux de RTE publiés au mois d'octobre, qui étaient basés sur une baisse de la consommation énergétique en France de 40%, sans signaler qu'on peut pas avoir de croissance durable si on arrête le charbon et le gaz sans une augmentation massive de la production d'électricité. Une croissance durable, c'est une électrification du système productif. Il y a aucune vision. Hier, il y a eu une commande de 2 EPR, c'était en Angleterre et pas en France. Donc, on n'a aucune vision de moyen terme en France et en Europe sur l'énergie. La Commission européenne propose aujourd'hui des mesures sur la relance du nucléaire et sur l'accélération de la production d'énergie en Europe, qui sont contraires à la politique qu'elle a menée pendant 15 ans. Donc le problème central de l'Europe, c'est une vision structurée, cohérente sur les grands dossiers agroalimentaires, défense, santé, énergie, sur les 15 prochaines années. Personne ne propose ça, et si on avait ça, on pourrait même remonter les taux courts à 2%, ça n'aurait pas d'effet négatif.
Alors, ce grand sujet finalement de et de la promesse d'un bouclier anti-fragmentation entre guillemets de l'Europe, c'est-à-dire en gros les effets différenciés de la hausse des taux sur les différents pays, autrement dit l'écartement par exemple des écarts de taux d'intérêt entre les différents pays de la zone euro, parce que comme vous le disiez Christian, il y a des effets différenciés de la hausse des taux. Ça c'est un défi considérable, c'est un défi qu'on n'a pas connu depuis 2011-2012 et la crise des dettes souveraines, et à l'époque c'était plutôt facile de baisser les taux d'intérêt pour essayer de contrecarrer. Là on est dans un moment où il faut monter les taux d'intérêt. Jean-Pierre Petit, sur cette il y a la promesse d'un instrument nouveau qui pourrait justement essayer de limiter ces écarts de trajectoire entre les pays de la zone euro. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que ça pourrait
être efficace? Parce que la Banque Centrale Européenne est probablement le seul organisme qui a la possibilité de le faire. Elle a toujours réussi à le faire. Tu parlais de 2011-2012. Enfin, la crise de la dette souveraine a continué jusqu'en 2015 avec la crise grecque. Il faut bien juillet 2015. Chaque fois, il y a eu des tensions. Puis il y a eu des tensions même en 2018 au moment de quand Salvini, enfin, était de fait le principal responsable du gouvernement italien. Il y a toujours eu des tensions qui reviennent sur une base régulière. Là, c'est pas tellement la question du. Enfin, là, très récemment, oui, à cause des problèmes de Mario Draghi. Mais avant. Les spreads s'est écarté, comme ils s'écartent toujours lorsqu'il y a une montée de l'aversion au risque et lorsque la BCE resserre. Donc voilà. Mais la BCE a tout à fait les moyens, mais c'est pas un argument technique, c'est un argument politique. L'Italie, c'est 15% du PIB de la zone euro. Donc si l'Italie saute, tout le monde saute. Donc de toute façon, on n'a pas le choix. Donc il n'y a pas de question, à mon avis, technique. C'est une question avant tout politique. Et que ce soit Mario Draghi ou un autre, de toute façon, l'Italie restera dans la zone euro. Donc voilà. Donc, y a personne, ni en Italie, ni dans le reste de l'Europe, pour souhaiter ou pour envisager la sortie de l'Italie. Donc il n'y a pas le choix.
Donc en période de hausse de taux comme en période de baisse, le whatever it takes de Mario Draghi,
on a inventé plein de trucs, SMP1, SMP2, OMT, PEPP, enfin bref.
Oui, mais sauf que ce qui est nouveau quand même, et là on peut effectivement s'étonner de la symétrie, c'est que en 30 ans d'années déflationnistes, on a eu le temps d'inventer tout un tas d'instruments nouveaux de politique monétaire. Et là, on a l'impression que pour la première fois depuis 40 ans qu'on est confronté à une accélération de l'inflation, les premières mesures qu'on nous ressort, c'est les vieilles politiques d'il y a 40 ans. Et qu'on n'a pas eu le temps de penser les nouvelles stratégies anti-inflationnistes.
Non mais la question n'est pas d'être anti-inflationniste. Parce que la hausse des taux directeurs, l'Italie l'a subi aussi. C'est la transmission, la bonne transmission la plus égale possible entre les 19 pays de la zone euro. C'est pas la même chose.
Oui, mais là, justement, Christian Parizeau, on a, justement, si on monte les taux, c'est là qu'on voit que finalement, cette hausse des taux, elle se diffuse pas de la même façon entre les différents pays de la zone euro.
Bah oui, parce qu'on a un problème, encore une fois, on est sur un choc asymétrique entre les pays euro. C'est-à-dire que, regardez simplement une statistique, l'inflation dans la zone euro, vous avez aujourd'hui des pays de la zone euro qui ont 20% d'inflation sur un an, d'autres qui sont à 6, notamment la France, qui est plus proche des 6 que des 20, mais et vous avez la moyenne de la zone euro qui est à 8. Comment voulez-vous gérer une seule politique monétaire quand vous avez un choc qui est aussi différent? Alors, vous allez me dire, c'est le cas aux États-Unis. Vous prenez les différents États américains, vous avez des écarts d'inflation. Sauf qu'il y a un seul État qui gère la politique budgétaire et qui emprunte au nom des États-Unis.
Mais ça, c'est les débats qu'on avait au moment de la crise de l'euro.
Et là, on retrouve, comme on est dans un choc asymétrique avec des impacts économiques très inégalitaires entre les pays, ça se traduit forcément par un risque pays qui est très différent entre l'Italie, l'Allemagne, la France et les autres pays. Donc, ça veut dire que techniquement parlant, c'est normal. Les spreads, les écarts de taux d'intérêt, la rémunération, la prime de risque qu'on va exiger vis-à-vis des États européens, elle doit monter normalement face à un risque économique qui n'est pas égal entre les pays. Le seul problème qu'a aujourd'hui la BCE, c'est que si elle monte ses taux, avec ces écarts de taux d'intérêt, ça va plus impacter finalement l'Italie que l'Allemagne, et ça va renforcer finalement les pressions négatives sur les pays qui sont déjà en difficulté. Donc le gros problème aujourd'hui, c'est qu'il lui faut un outil. L'outil pose problème aujourd'hui parce que elle a une inflation qui est très au-dessus de son objectif. Donc il est hors de question d'augmenter la taille du bilan, de faire de la planche à billets, de faire de la création monétaire pour acheter de la dette italienne. Donc il faut trouver aujourd'hui un cadre constitutionnel qui rentre dans sa fonction pour justifier le fait qu'elle intervienne sur cette dette et qu'elle réduise artificiellement ce risque sur les dettes italiennes. Et la seule façon de le faire aujourd'hui, c'est de mettre en place une sorte de programme qui sera appelé de liquidité, qui sera pas surtout pas du quantitative easing, c'est pas du tout un ancien outil, puisque le but c'est pas d'acheter et détenir jusqu'à maturité la dette italienne. Le but, ça sera seulement d'apporter de la liquidité. Et donc, la BCE va nous dire que l'écartement des spreads italiens, c'est surtout un problème de liquidité. Et donc, elle va devoir intervenir. La seule contrainte qu'elle aura, c'est qu'il ne faut pas qu'elle augmente la taille de son bilan. Donc, ça veut dire que ces achats qu'elle va faire, ce seront des achats de court terme. C'est pas un but de stériliser complètement cette dette. Et derrière, on va reprendre la liquidité autre part. Et on reprendra la liquidité sur le secteur bancaire.
Oui, mais donc, il y a quand même un côté.
On voit qu'il y a quand même des contraintes aujourd'hui qui sont beaucoup plus fortes. Et la seule contrainte qui est beaucoup plus forte, c'est parce qu'aujourd'hui, l'inflation est supérieure à l'objectif de la BCE. Et elle peut plus utiliser ses anciens outils pour enlever le risque italien.
Il y a un côté, Christian, qui est quand même délicat. C'est le côté discrétionnaire, finalement.
Mais il sera totalement.
Et là. Ah, oui, mais alors,
Elle a toujours été discrétionnaire. Elle va surtout pas dire le bon niveau des spreads italiens, c'est tel niveau, hein. C'est clair qu'elle peut pas dire ça. Donc la seule chose qu'elle peut dire, c'est qu'elle peut dire je vais faire un programme de liquidité suffisamment important. N'essayez pas de spéculer contre l'Italie parce que c'est autoréalisateur. De toute façon, non. N'essayez pas de spéculer contre l'Italie. Et puis derrière, il faut qu'elle adapte surtout son programme, son nouvel outil par rapport au nouvel environnement et à ses contraintes constitutionnelles, parce qu'on sait que ce nouvel outil va être attaqué de toute façon à Karlsruhe, va être attaqué auprès de la Cour constitutionnelle. Oui. Donc faut que derrière, c'est plus des contraintes politiques qui pèsent aujourd'hui, mais faut qu'elle rentre tout ça dans les clous.
Christian Saint-Etienne, vous qui avez écrit beaucoup justement les fragilités de l'architecture de la zone euro.
Alors, deux remarques. La première, c'est que vous évoquez, Emmanuel, l'aspect discrétionnaire de la politique. En l'occurrence, la BCE ne va pas annoncer des objectifs de spread, mais en pratique, elle va acheter plus de dettes italiennes. La question centrale, si elle veut maintenir sa politique monétaire, c'est est-ce qu'elle le fait au détriment des achats de Bund, ce qui est une possibilité. Donc, puisqu'elle s'est donné déjà cette possibilité de faire des arbitrages sur les achats de dettes de manière discrétionnaire, donc c'est une possibilité. Mais ceci étant, il y a un point qui échappe à la discussion ce matin, c'est le fait que l'Italie, globalement, ne tire pas sur l'épargne mondiale puisqu'elle a un excédent extérieur. Sa balance courante est excédentaire. Ce qui veut dire, quand vous avez votre balance courante qui est excédentaire, ça veut dire que pour l'essentiel, la dette italienne est financée en interne. Donc c'est notamment les ménages italiens qui détiennent massivement de la dette italienne. Alors il y a des arbitrages contre l'Italie parce qu'elle a une dette publique qui est élevée, au-delà de 150 points de PIB, mais fondamentalement l'équilibre macroéconomique de l'Italie est moins en danger que celui de la France, qui a un énorme déficit de sa balance commerciale, en partie compensé par un excédent de services, mais structurellement, nous avons un énorme déficit extérieur. Donc, on n'a aucune raison, un, d'abandonner l'Italie sur le plan macroéconomique. Deuxièmement, comme l'a dit Jean-Pierre, l'Italie, c'est 15% du PIB européen. Si l'Italie sort, c'est l'explosion de la zone euro. Or, le troisième argument qui est central pour moi, c'est que la politique économique de l'Allemagne, elle est faite par le BDI, c'est-à-dire l'industrie allemande. Or, pour l'industrie allemande, qui a publié depuis 10 ans un certain nombre de documents stratégiques, et qui depuis 3 à 4 ans voit progressivement ses possibilités d'exportation sur la Chine se réduire, quand vous êtes un grand industriel international et que vous réfléchissez aux contraintes que vous avez à court terme, vous vous demandez toujours quel est mon marché intérieur. Et le marché intérieur de l'Allemagne, c'est pas l'Allemagne. Le marché intérieur de l'Allemagne, c'est Allemagne, France, Italie, Espagne. C'est la raison centrale qui avait conduit Merkel tout à coup à débloquer le plan de 750 milliards, ouais. Alors que Merkel, pendant 15 ans, s'était opposée à toute politique de ce type. C'est qu'il y a 2 ans, la grande industrie allemande s'est inquiétée d'une explosion de la zone euro. Elle n'en veut pas. Donc c'est la grande industrie allemande, c'est le BDI qui fait la politique stratégique de l'Allemagne et elle ne souhaite pas, l'industrie allemande ne souhaite pas que l'Italie sorte de la zone euro. Pourquoi ? Parce que l'Italie du Nord est très industrialisée et elle achète ses machines et pour les industriels qui réussissent, c'est BMW, c'est Mercedes en Allemagne. Donc l'Allemagne souhaite que l'Italie du Nord reste dans la zone euro.
Avant la pause, est-ce qu'il y a un grand enjeu autour du thème de la récession ? Jean-Pierre Petit.
Un grand enjeu.
Est-ce que c'est important de savoir si on va avoir une récession ?
Ah bah quand même, oui.
Dépend, oui, mais est-ce que l'enjeu, c'est pas de savoir si c'est une récession ou si c'est une crise, genre 2008, vous voyez ? Est-ce que c'est important de savoir que le PIB va baisser de moins 0,1 ou d'augmenter de plus 0,1 ?
Au niveau mondial, je dirais que les bilans des agents privés, des ménages, des entreprises non financières et des banques sont quand même beaucoup plus solides. D'ailleurs, ce qui permet d'ailleurs à l'économie mondiale, je raisonne là vraiment au niveau mondial, de résister par rapport aux forces récessives jusqu'à présent. Il y a 2 choses qui permettent de résister.
Vous savez quoi, Jean-Pierre ? Vous nous expliquerez ces 2 choses après la pause.
Ah bah ouais.
Je m'aperçois que j'ai été un peu gourmand. Je pensais qu'on aurait le temps. Eh bien non. Eh bien comme ça, vous restez avec nous. On revient sur la question de la récession. Et puis surtout, on va s'interroger sur un thème beaucoup plus large. Est-ce que finalement, il y a un risque de fragmentation de l'économie mondiale, de la zone euro ? C'est le grand thème de la deuxième partie de ces experts. C'est dans quelques secondes avec Jean-Pierre Petit, Christian Parizeau, Christian Saint-Etienne.
Débat et controverse sur BFM Business. Emmanuel Lechypre accueille les experts.
Les experts, deuxième partie avec nos 3 invités du jour. Jean-Pierre Petit, président des Cahiers Verts de l'économie. Christian Parizeau, fondateur de Altair Économique, c'est ça, Christian ? Économiste conseiller encore, toujours, auprès d'Aurel BGC. Et puis Christian Saint-Etienne, professeur au CNAM, le représentant éminent du Cercle des économistes. Ce jeudi, Jean-Pierre Petit, vous aviez commencé à nous expliquer ce qui était en jeu sur le... Est-ce que c'est important de s'interroger sur la récession ? Est-ce que c'est vraiment est-ce que à 1 ou 2 dixièmes de point près fondamentalement ?
Bah là, pour l'instant, on peut pas dire qu'on soit en récession mondiale. Hein. Ouais. Là, pour l'instant, sur les chiffres du T2, c'est pas le cas. Même si la Chine est très très négative, les États-Unis sont un peu au-dessus de zéro, la zone euro. Bon, il y a l'Inde et le Brésil qui tiennent encore. C'est quand même une question assez importante. Et c'est surtout l'Occident qui est frappé. Alors la Chine, tout va dépendre de la situation pandémique. Là, ils ont une super reprise depuis la mi-mai, mais bon, c'est un peu fragile.
Super reprise de l'épidémie.
Super reprise, pardon, de l'économie.
De l'économie.
Pardon, j'ai dit épidémie. Non, il y a une super reprise de l'économie depuis la mi-mai, mais hélas, il y a une reprise pandémique depuis une dizaine de jours à peu près. Voilà, donc c'est ça qu'il faut regarder en fonction des mesures de confinement. Non, ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'économie mondiale résistait assez fortement aux forces récessives, c'est-à-dire le resserrement des conditions financières, la hausse de l'inflation, les incertitudes géopolitiques, etc., etc. Grâce à 2 choses. D'abord, la reprise post-Omicron dans les services. L'hôtellerie, tourisme se porte très bien au niveau mondial. Regardez le transport aérien. Enfin, vous voyez, ça permet quand même à l'économie mondiale de résister. La deuxième chose, c'est que les bilans privés sont solides, les ménages. Donc, on n'est pas dans une situation de dette nette très élevée des ménages, des entreprises. Les bilans des banques sont quand même beaucoup plus solides qu'au moment de Lehman, par exemple. Donc, tout ça permet de résister.
Mais ça veut dire, Jean-Pierre, qu'on peut exclure, ce qui est quand même une excellente nouvelle, une crise type 2008, qui est quand même beaucoup plus importante qu'une récession traditionnelle.
Alors, après, il y a une dimension géopolitique, là, qui y a une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de nous, qui peut, elle, en fonction des événements, générer un stress beaucoup plus important. Mais sur la base d'un statu quo au niveau de la guerre d'Ukraine, je ne pense pas qu'on aura une récession aussi importante et aussi profonde et aussi longue que celle de 2007-2009. Mais par contre, la récession au sens du National Bureau of Economic Research aux États-Unis, la réponse est oui. D'ailleurs, les indicateurs avancés les plus courants d'une récession, c'est un, le niveau élevé de l'inflation. Je rappelle que sur l'après-guerre, sur les 13 récessions d'après-guerre, le niveau moyen d'inflation, quand le cycle se retourne, est entre 6,5 et 7,5, on est à 9 quand même. Le taux de marge baisse, il a commencé déjà à baisser. Le taux de chômage est au plus bas, et il est au plus bas, enfin il est très bas, il y a 3,6%. C'est un indicateur avancé de récession, aussi fou que cela puisse paraître. L'inversion de la courbe des taux, par exemple, qui est un bon indicateur, on va dire technique, mais quand même un bon indicateur avancé de récession. La baisse des marchés d'actifs risqués, le S&P 500 a baissé entre le 2 janvier et le 16 juin de 23,6%. Donc voilà, on a tout un tas d'indicateurs financiers, macroéconomiques, plus traditionnels, qui permettent quand même plutôt d'anticiper une récession. Alors, pas immédiatement, là, mais dans les mois à venir. Et pareil pour la zone euro, parce que j'ai envie de dire que la zone euro est encore plus vulnérable, ne serait-ce qu'à cause de sa dépendance énergétique à l'égard de la Fédération de Russie.
Christian Parizeau, récession.
Oui, alors récession technique. Récession technique dans le sens, c'est vraiment une récession très lisse, très faible. Alors pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'on est sur des choses très divergentes. On en a parlé tout à l'heure sur l'inflation. L'inflation, c'est pas que la hausse des prix de l'énergie ou du pétrole. C'est une multiplication de chocs. Là, en ce moment, on a dans l'économie des réactions qui sont diverses. Je vous prends un exemple. Aujourd'hui, vous avez des chefs d'entreprise qui nous disent que leurs carnets de commandes sont plus hauts historiques. Si vous prenez en Allemagne, aujourd'hui, vous avez 8,1 mois de carnet de commandes. On n'a jamais vu ça. Mais il y a un retournement qui est en train de s'opérer parce qu'on voit qu'il y a un net ralentissement de la demande. Donc, ça ne va pas immédiatement chuter. Puisque quand vous avez des carnets de commandes, faut quand même, vous avez aussi des commandes non honorées qui sont très élevées parce qu'on a des problèmes de production. Donc, dire aujourd'hui qu'on va d'un seul coup voir la production s'effondrer quand vous avez des carnets de commandes au plus haut, que vous avez des commandes qui sont en attente et que vous n'arrivez pas à fournir vos clients, c'est pas compatible. Pour autant, on voit aussi que dans le même temps, on a une vraie pression sur le pouvoir d'achat des ménages. On voit que les ménages commencent déjà à arbitrer dans leur consommation, qu'il y a des changements de comportement. Et on voit, dernière chose, on a tout cet effet Covid qui avait énormément perturbé l'économie et qui en ce moment, par la réouverture de certaines activités, par exemple au troisième trimestre, on va avoir peut-être des très bons chiffres de consommation sur la partie tourisme.
Bah oui.
Mais on sait que c'est que technique et c'est lié à l'effet Covid. Donc si je vous mélange un peu tout ça, on a plein de statistiques qui vont dans tous les sens, mais qui nous montrent qu'in fine, on a quand même une économie qui reste relativement résiliente face aux différents chocs. Ce qui n'empêche pas que pour l'instant, la dynamique, elle est quand même vers un ralentissement et peut-être une petite récession dans les prochains mois.
Christian Saint-Etienne, est-ce que ça vaut le coup de dépenser autant d'argent public qu'aujourd'hui ? Et on est encore, on feuilletonne autour de la discussion de la loi sur le pouvoir d'achat. On voit passer les mesures les unes après les autres. Est-ce que ça vaut le coup de s'acharner autant à défendre le pouvoir d'achat aujourd'hui et à dépenser autant d'argent pour soutenir le pouvoir d'achat ?
Alors d'abord, je reviens sur la question d'une éventuelle crise. Il y a vraiment deux scénarios. Une aggravation de la situation en Ukraine ou une stabilisation, voire dans une évolution plus positive, le début de discussions sur au moins un arrêt des hostilités qui serait significatif. Donc, dans le cas d'une aggravation qui se traduirait également par une aggravation de la crise énergétique de l'Union européenne, on irait vraisemblablement vers une récession technique significative, mais pas du tout le scénario de 2008 pour l'instant. Il ne faut pas que les Russes se mettent à utiliser des armes tactiques nucléaires en Ukraine, parce qu'évidemment, ça aggraverait la situation. Mais ce scénario aujourd'hui, tous les éléments sur la table conduisent à considérer qu'il y a à peu près 50% de chances sur les deux scénarios. Ouais. L'autre scénario, c'est un scénario donc de stabilisation en Ukraine et d'amélioration par le début de discussion. Et dans ce scénario plus positif, moi, je n'ai pas d'inquiétude. Je n'ai pas d'inquiétude majeure pour, en partie, les raisons évoquées. Notamment, les bilans des entreprises sont bons, puisqu'on a transféré de la dette en France des entreprises à l'État. Ce qui m'inquiète, c'est que la sphère politique est totalement décalée et déconnectée de la compréhension de ce qui se passe. La France est dans une crise d'offres majeure depuis 15 ans par la désindustrialisation. Là, on va encore rebalancer 20 milliards sur le pouvoir d'achat. Où sont les politiques stratégiques de réindustrialisation très significatives? On a annoncé la suppression de la CVAE, mais il faut aller beaucoup plus loin. Où sont les politiques, je l'évoquais tout à l'heure, sur la stratégie énergétique? Donc, on a un président de la République et un gouvernement qui ne donnent aucune perspective de long terme. Mais au niveau, dans le scénario positif sur l'Ukraine, c'est-à-dire pas de dégradation et début d'amélioration,
mais on a ce choc,
on peut même imaginer que, compte tenu de l'appétence des ménages pour consommer et de la volonté de vivre, c'est simplement la volonté de vivre après toutes les inquiétudes, le redémarrage du tourisme, c'est la volonté de vivre. Et cette volonté, elle est un peu comparable aux années folles, toute proportion gardée. Donc, d'une certaine façon, il n'y a aucune raison que dans un scénario où il n'y a pas d'aggravation en Ukraine,
qu'est-ce qu'on dit aux Français début janvier ? Qu'est-ce qu'on dit aux Français début janvier quand on n'aura plus les aides sur les carburants, par exemple ?
Mais moi, je vous réponds, les Français veulent du pouvoir d'achat.
Ouais.
Il y a 400 000 emplois non pourvus. J'ai discuté lundi soir avec un entrepreneur qui est... un cas spécifique. 560 personnes dans les services autour de l'agriculture. 62 postes ouverts. Alors qu'ils ont 560 employés, impossibilité de trouver des gens qui répondent. Donc dans ce contexte, là aussi, on a fait une première étape de réforme des conditions pour le chômage. Le président de la République, à juste titre, a évoqué une nouvelle mesure dans cette direction. Moi, je pense qu'il faudrait aller vers des conditions qui sont actuellement celles qu'on observe en Allemagne sur le chômage.
Donc une réduction de la durée d'indemnisation, par exemple.
Réduction de la durée d'indemnisation et surtout un allongement de la durée de référence pour toucher des allocations, notamment, par exemple, en Allemagne, il faut, pour toucher un an de chômage, il faut avoir bossé un an.
Jean-Pierre Petit, au-delà des six prochains mois, le court terme, etc., vous dites le principal risque aujourd'hui, c'est ce que vous appelez la fragmentation de l'économie mondiale. Qu'est-ce que vous mettez derrière ces risques ?
Je suis pas tout seul, hein, y a le FMI qui en a parlé. La fragmentation, ça va au-delà de la démondialisation.
Ouais.
La démondialisation, c'est quoi ? C'est le poids des échanges de biens, services, de capitaux et de personnes dans le monde. Et d'ailleurs, on ne voit pas de fort mouvement de démondialisation, contrairement aux années 30, par exemple.
Une désinternationalisation des processus de production.
On voit un plateau depuis 2008, depuis Lehman.
Ouais.
Sur les biens, on voit un plateau. Il n'y a qu'un seul pays où le poids des exportations de biens par rapport à la production de biens a baissé, c'est la Chine. Mais sinon, c'est plutôt un plateau légèrement baissier. Sur les personnes, on voit que ça baisse, c'est-à-dire l'immigration. Sur les flux d'investissement direct, on voit que ça baisse un peu. Sur les flux d'investissement de portefeuille, on voit que ça baisse un peu. C'est pas massif, mais ça baisse un petit peu. Après, il faut le nuancer par deux, trois choses. Les services s'internationalisent plus que les biens. Notamment tout ce qui est IT, Internet, services aux entreprises, etc. Et sur les stocks, quand on regarde les stocks, c'est-à-dire les encours d'investissement direct internationalisés, quoi. C'est-à-dire le capital chinois détenu dans le reste du monde ou le capital américain détenus en Chine, tu vois, c'est au plus haut historique. Pareil pour le capital humain, pareil pour le capital financier. Donc tu vois, en termes de stock et en termes de services, il n'y a pas de démondialisation. Mais, alors après on va voir ce qui va se passer, mais pour l'instant il n'y a pas vraiment de démondialisation, il y a un plateau. Voilà, on va dire ça comme ça. Après, la fragmentation, ça va au-delà. C'est l'hétérogénéité croissante du monde, c'est la balkanisation croissante du monde. Et ça va bien au-delà des échanges, si tu veux. C'est les normes commerciales, juridiques, sanitaires, qui se dégrade. enfin, qui deviennent de plus en plus hétérogènes. Les systèmes de paiement qui fonctionnent plus. Et là, pourquoi on en a parlé cette année, c'est parce qu'on a coupé SWIFT à la Russie, bien évidemment. Le, il y a plus de monnaie de réserve. Il y en a plusieurs. C'est la balkanisation du monde. C'est les années 50-60. Le monde en trois blocs. Le monde communiste, le monde occidental et le monde des non-alignés. Pourquoi je dis des non-alignés? Parce que là, il y a plein de pays. Il y a une quarantaine de pays qui ne sont pas, qui étaient plutôt proches de l'Occident. Enfin, pour certaines, pour un certain nombre de choses. Et là, qui n'ont pas voté les sanctions contre la Russie. Et ça, c'est très important. Et la fragmentation...
40. Plus de 40 qui n'ont pas voté.
Oui, alors, en tout, oui. Oui, bien sûr. Non, mais qui étaient proches, plutôt proches de l'Occident.
Qui auraient dû voter.
Oui, au moins sauvegarder le principe de l'inviolabilité des frontières. Juste un petit point. La fragmentation, c'est extrêmement important. Et je pense, alors là pour l'instant on n'a aucun signe de fragmentation, parce que si on regarde, à part la Russie bien évidemment, mais la Russie est un nain économique, c'est à peine plus que le PIB espagnol, donc ça c'est pas la vraie question. Alors est-ce qu'on y croit, on n'y croit pas? Alors il y a un acteur clé là-dedans, ça va être évidemment la République populaire de Chine. Évidemment. Alors, moi, j'y crois pas. Pourquoi ? Parce que les intérêts de la Chine dans le reste du monde, dans le reste du monde occidental, sont massifs. Les exportations, rien que les exportations de la Chine vers l'OCDE, c'est 9% du PIB. La Chine a 2500 milliards de stocks d'investissement direct à l'extérieur de la Chine. Donc, elle a des intérêts massifs. Et puis, de toute façon, Xi Jinping n'a jamais dit au contraire. Sur les dernières années, quand il s'était rendu à Davos, etc., au contraire, il avait... Il avait critiqué Trump là-dessus. Alors attention quand même, parce que avant même la guerre d'Ukraine, il y avait quand même des petits signaux, hein, des petits signaux de fragmentation. Il y avait Trump, il y avait Covid. Covid, qu'est-ce que nous dit Covid? Covid nous dit que le souverainisme sanitaire, le souverainisme et même technologique, et voire alimentaire, est une question qui doit être, soulevée par les politiques. Alors que sur les 40 ans de mondialisation, on avait plutôt tendance, dans le discours dominant, à le repousser. Et donc, on a des forces indépendantes de la géopolitique. C'est ça que je veux dire. Donc, on a des raisons techniques, technologiques, des raisons de nécessité, en quelque sorte, au-delà de la géopolitique. Mais il est bien évident que la géopolitique, c'est la variable clé dans l'histoire. 1914 a interrompu, évidemment, la grande vague de mondialisation qu'on voyait depuis les années 1860 sous l'égide de l'Empire britannique. Et ça s'est renforcé dans les années 30. Donc, bien faire attention aux risques objectifs, risques sanitaires, risques technologiques, et puis risques fiscaux, financiers. Pareil, hein, juste un point, et puis je finirai là-dessus. Quand les États-Unis ont pris des sanctions contre les banques, etc., là aussi, ça a foutu un coup au prestige du dollar, enfin au prestige américain, au prestige du dollar. Attention, il y a eu des petits signaux dans la décennie de 2010 qui nous disaient attention. Et puis là, le risque principal, il est géopolitique.
Christian Parizeau, alors d'abord, est-ce que vous achetez ce scénario de la, finalement, qui est une balkanisation, on peut appeler ça régionalisation aussi, de l'économie mondiale? Est-ce que ça veut dire que finalement, moins de délocalisation? Est-ce que c'est une économie mondiale moins performante, moins efficace, moins sûre, avec de l'inflation plus élevée, une croissance plus faible? Et qu'est-ce que ça dit sur le fonctionnement des marchés financiers éventuellement?
Alors, il y a deux choses. D'une part, il y a toute l'idée de démondialisation, du fait qu'on échange beaucoup moins entre pays. Moi, j'y crois pas beaucoup. Je pense que quand on va avoir une situation qui va revenir à peu près à la normale au niveau des coûts du trafic maritime et tout ça, on va voir que de nouveau, on va s'échanger et de nouveau, on aura la concurrence chinoise qui va revenir dans les pays occidentaux. Donc, faut pas croire qu'on va tout produire au niveau local. On voit par contre, ce qui est clair, c'est que les entreprises vont diversifier leur chaîne d'approvisionnement. Ouais. Elles vont plus dépendre à 100% de la Chine et donc elles vont peut-être acheter plus à l'Inde, plus au Vietnam. Ça, c'est évident. Mais je ne crois pas véritablement à un retour à l'arrière où on produirait tout en France, par exemple, pour faire simple, ou en Europe. Ça, c'est évident. Par contre, il y a un élément qu'il faut surveiller, qu'il faut regarder, qui était vraiment un élément qui expliquait en partie la spécialisation et l'émergence de grands pays. C'était le fait qu'on avait des normes internationales. Je vous prends un exemple très clair. Vous voyez bien qu'avec votre téléphone, vous pouviez appeler de partout dans le monde, vous aviez les mêmes normes de téléphone, les mêmes normes informatiques. Et donc, du coup, c'était très intéressant d'avoir une ou deux entreprises qui produisaient l'ensemble des puces, l'ensemble des écrans plats. On avait trois usines dans le monde qui faisaient des écrans OLED. Donc, on n'avait pas besoin d'en avoir 10 000 parce qu'on faisait des grandes chaînes d'activité. Ce qui est en train de se passer là, est-ce qu'on a un risque? Et notamment, entre autres, avec ce qui se passe avec la Russie, hein, avec le fait qu'on met des sanctions contre la Russie, la Russie va être obligée de s'enfermer quelque part. Et donc, on voit que la Chine aussi va essayer de plus en plus de préserver ce qui lui paraît essentiel. Et là, on a un risque de repli des pays et d'avoir ses propres normes. Et ça, ça va jouer énormément sur la productivité, parce que forcément, d'avoir 3 usines dans le monde, bah, c'était quand même énormément de gains de productivité. Hein. C'était quand on produit, c'était là où on avait du levier. Et c'était un élément qui réduisait énormément les coûts. Puisqu'on avait la même norme partout dans le monde, c'était tout le grand jeu d'Apple. Hein. Apple, en faisant finalement, vendait le même téléphone partout dans le monde.
Mais vous avez moins de concurrence.
Alors, par contre, et vous aviez moins de concurrence. Alors, ça faisait aussi, ça fait
c'était
aujourd'hui.
C'était un oligopole, en fait.
Voilà c'est ça. Donc ça fait l'émergence aussi des géants derrière ça d'Internet. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est ça qu'il faut surveiller parce que ça va jouer énormément. Par contre, ça, c'est cet aspect norme, c'est moins visible. Ça sera moins visible sur les échanges, mais c'est des choses qui profondément vont transformer, à mon avis, les gains de productivité et les coûts. Et ça peut être générateur d'inflation à terme, naturellement.
Christian Saint-Etienne.
Je pense qu'il y a plus un risque d'ailleurs, c'est même pas un risque, c'est ce que je souhaite sur le plan stratégique, c'est une régionalisation du commerce, plutôt qu'un risque de fragmentation jusqu'à un certain point. Pourquoi un risque de fragmentation jusqu'à un certain point ? Il faut pas que les différentes évolutions visant à restreindre les échanges financiers ou d'autres conduisent à un point de rupture. Donc, si on évite ce point de rupture qui pourrait alors créer une vraie fragmentation, mais type années 30, si on évite cette évolution, et on voit quand même qu'en 2008 les crises qui ont suivi, avec les enseignements de la crise des années 30, Bernanke, par exemple, qui était un spécialiste de la crise des années 30, avait mené une politique très forte à la Fed pour éviter justement ces risques de rupture. Je pense que les banques centrales, toutes les grandes banques centrales ont intégré ces risques et c'est pour ça qu'elles agissent rapidement en termes de liquidité. Il faut se souvenir quand même qu'entre 1929 et 1933, la masse monétaire américaine a baissé d'un tiers. Et le commerce mondial en valeur avait baissé de 60% en 4 ans, entre 1929 et 1933. Et on a vu les effets dévastateurs que ça avait provoqué. Donc c'est ça que les banquiers centraux ont parfaitement à l'esprit. Mais pour des raisons géostratégiques, pourquoi personnellement je souhaite une régionalisation, et notamment une régionalisation qui, de mon point de vue, irait au-delà de l'Union européenne et qui pourrait être une régionalisation atlantique, c'est-à-dire la création d'un marché euro-atlantique américain qui intégrerait l'ALENA, l'Union européenne, le Royaume-Uni, la Suisse et la Norvège, avec des orientations communes en termes de croissance durable. Alors c'est un vœu pieux avec les évolutions idéologiques du Parti républicain aux États-Unis, mais ça aurait un sens qu'au niveau de ce bloc-là, on ait une taxe carbone significative qui permette d'accélérer l'évolution vers la croissance durable, parce que seuls les signaux prix permettent de conserver l'efficacité économique. Également, il y a une évolution de la réflexion aux États-Unis. Jeannette Yellen a évoqué le friendshoring, c'est-à-dire on achète à des amis. Donc ça renforcerait l'intérêt de la création de ce bloc euro-États-Unis. Ouais. Si on peut pas créer ce bloc euro-États-Unis, je pense qu'il faut, notamment sur le plan militaire agroalimentaire et sur le plan sanitaire, avoir une régionalisation. On peut pas continuer d'avoir les bases de produits pharmaceutiques qui sont produites en Inde et en Chine.
Jean-Pierre Petit, Mario Draghi vient d'annoncer qu'il représentait sa démission. Quelles conséquences ça peut avoir ? Est-ce qu'on va voir les taux italiens monter ? Est-ce que c'est une fragilisation de l'Europe ? Est-ce que ça complique la tâche de la BCE ?
On avait un dirigeant politique italien crédible. Hein. On n'en a pas eu tant que ça au cours des dernières décennies. Hein. Donc c'est quand même un peu dommage. Je crois qu'il y avait de la lassitude chez Mario Draghi, hein, qui est quand même qui a 75 ans, qui a pas une carrière politique. Enfin, c'est pas un politique à l'origine. Donc, il a peut-être envie de faire autre chose aussi. Il est peut-être un peu lassé, quand même, de la vie politique italienne. On se plaint beaucoup de notre vie politique, mais en Italie, c'est quand même pas terrible non plus. Alors, question, est-ce que ça peut avoir un impact? Oui, à court terme, oui, ça va avoir un impact certainement sur les spreads de taux, probablement un petit peu sur l'euro, probablement sur les bancaires italiennes, parce que tu disais tout à l'heure que c'est les ménages. Mais en fait, sur le stock, c'est les banques.
Il y a les banques.
Ils tiennent 61% à peu près du stock d'obligations publiques. Donc, sur les marchés, ça va avoir un impact. Après, Draghi ou pas Draghi, c'est l'Italie. Et il faut qu'on la garde, l'Italie. Donc, je reviens à ma remarque initiale. Le problème, ouais, il est avant tout politique. Voilà.
Christian Parizeau, est-ce que c'est l'homme le plus important d'Europe qui sort de la scène ou pas?
Je sais pas si c'est le plus important, mais c'est le...
Ah, c'est quand même lui, il a quand même fait économiser des sommes délirantes.
Oui, oui.
À l'Europe.
Par sa fameuse phrase. Mais au-delà de ça, je pense que là, on rentre de nouveau devant une incertitude politique pour la zone euro et donc de volatilité. Et c'est surtout ça qu'on va intégrer. C'est-à-dire que, grosso modo, le quatrième trimestre s'annonce quand même difficile pour l'Europe, entre les incertitudes sur est-ce qu'on va avoir assez de gaz, qui peuvent enclencher vraiment une récession technique, là aussi, puisque si on n'a pas assez de gaz, on va arrêter des activités, donc techniquement on va être en récession à cause de ça, et plus ces élections qui vont avoir lieu en Italie, qui peuvent aussi entraîner pas mal d'incertitudes. Donc c'est plus un élément supplémentaire qui arrive au mauvais moment, parce que ça va peser sur l'euro. Et on sait qu'aujourd'hui, la dépréciation de l'euro, c'est pas ce qu'il faut pour l'Europe, parce que ça renchérit encore l'inflation importée. Donc tout ça fait que ça donne quand même une petite spirale un peu négative pour l'Europe en ce moment. Donc facteur de risque et encore facteur de volatilité pour les marchés autour de tout ça, quoi.
Christian Saint-Etienne.
Moi, je suis pas inquiet. Voilà. Alors, Mario Draghi a été un super technicien stratège lorsqu'il était à la Banque Centrale Européenne. Mais si on regarde la situation interne en Italie, il va y avoir des élections à l'automne. Elles vont certainement amener l'électorat à mettre au pouvoir la droite italienne. Cette droite italienne est en fait, il faut pas se faire peur, c'est une droite démocratique, malgré les terminologies parfois un peu extrêmes sur l'immigration. Donc l'Italie va rester dans l'Union européenne pour toutes les raisons qu'on a évoquées pendant cette émission. L'Italie est un élément central de la capacité allemande de production, puisque les entreprises, les ETI italiennes sont des sous-traitants de l'industrie allemande. Donc tout ça va rester intégré. L'Allemagne ne peut pas accepter que son marché intérieur se fragmente. Donc c'est plus... Alors, la personnalité de Mario Draghi est majeure, mais dans la situation politique spécifique de l'Italie et compte tenu des équilibres qu'il faut maintenir au niveau européen, c'est un non-événement politique.
Merci, messieurs, nos trois experts du jour. Jean-Pierre Petit, des Cahiers Verts de l'économie, Christian Parizeau, Altaïr Économique, et Christian Saint-Etienne, du Cercle des économistes. On se retrouve demain pour une nouvelle édition des Experts.